Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Ce regard croisé sur le coma proposé par Anne Sauty de Chalon se décline en deux émissions. Celle que vous allez écouter à l'instant avec pour invité Daniel Vermeulen, anthropologue. Et pour entendre l'autre volet de l'émission, vous pourrez trouver sur Canal Académie un entretien avec Jean-Roger Le Gall, ancien chef du service de réanimation de l'hôpital Saint-Louis.
Bonjour et bienvenue dans ce regard croisé où, vous savez, on n'hésite pas à traiter de questions délicates. La fin de vie en soi est une question délicate. Question à l'intérieur de cette question délicate, celle de l'état comateux, du coma. On a tous évidemment entendu parler, soit dans sa famille, soit dans des cas de personnes connues. On pense à Ariel Sharon par exemple. Deux personnes qui se trouvent dans le coma depuis un certain temps, deux personnes qui y sont même restées très très longtemps. Et bien sûr, sur cette question extrêmement délicate, la recherche avance. Alors on va essayer de faire le point dans ce regard croisé sur la façon dont l'homme doit se situer aujourd'hui. Et vous savez qu'à l'Institut, c'est toujours également une préoccupation. Comment l'homme doit se situer par rapport aux questions de notre temps et aux questions graves, à plus forte raison. Celle du coma en fait partie. Alors on va l'évoquer avec une personne qui a beaucoup étudié la question. C'est vous, Daniel Vermeulen. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour évoquer ce sujet. Alors je vous présente... J'allais dire succinctement, c'est difficile de vous présenter succinctement, parce que vous êtes docteur en anthropologie sociale et sociologie comparée, vous avez un cursus de philosophie bouddhiste et hindouiste, vous avez un DEA d'anthropologie religieuse, vous avez une maîtrise de psychologie sociale, alors tout cela c'est bien beau, mais en fait vous n'avez pas de compétences médicales.
Non.
Bon, alors quelle est votre légitimité pour en parler? Vous voulez, c'est une approche sociologique?
Oui, en anthropologie, anthropos, c'est l'être humain, donc nous nous interrogeons et nous nous intéressons à l'être humain.
Mais vous voulez dire que les médecins ne s'y intéressent pas à l'être humain et qu'on a besoin du retour de cette science ?
Mais nous sommes dans une société actuellement où c'est le médical qui doit avoir une réponse à toute chose. Quand on... Et là, dans ce domaine, évidemment, ils sont au premier chef concernés puisque ce sont eux qui vont être amenés avec les soignants à s'occuper des comateux. Donc on est bien obligé tout de même de faire référence à ce qui existe actuellement par rapport au coma, au point de vue recherche.
Donc on est bien obligé de travailler avec les médecins. Mais vous, vous avez une autre
attaque. En ce qui
attaque.
M'intéresse, en tant qu'anthropologue et par rapport au travail que je fais auprès des familles, c'est quand vous avez un proche que vous aimez ou que vous-même entrez dans un état de coma, c'est comme si vous receviez le ciel sur la tête. Donc il est important que là, on en parle pendant qu'il fait beau.
Voilà, belle expression, pendant qu'il fait beau. Sachant que c'était un sujet qui est resté tabou pendant très longtemps.
Oui, parce que l'on pensait qu'une personne qui était dans le coma n'avait absolument aucune réaction. Et puis l'on sait maintenant qu'il faut faire très attention lorsqu'on est au chevet d'un comateux, aux propos que l'on tient. Mais c'est pas seulement ça. Et c'est pour ça que je vous remercie infiniment de me donner l'opportunité de parler des recherches qui sont faites actuellement. Donc soit en Angleterre, à Oxford, à Cambridge, et plus particulièrement à l'Université de Liège, donc dans le centre de cyclotron, où se trouvent deux chercheurs, Mélanie Bolli et Stephen Lawrez, au travers desquels je vais m'exprimer, parce qu'ils m'ont donné le feu vert de parler de leurs travaux. Donc je vais essayer, bien que n'étant pas médecin, de vous donner les éléments qui permettent de penser actuellement qu'il y a une toute autre approche du comateux qui peut être faite, tant par les soignants, que par la famille qui a un rôle essentiel à jouer.
Alors Daniel Vermeulen, avant d'en venir à ce point crucial de notre entretien, juste une petite question à titre personnel. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette question du coma ?
Je dirais plutôt pourquoi le coma s'est-il intéressé à moi ?
Ah.
Parce que bon, j'ai été amenée au plan individuel et personnel à être auprès de familles qui se trouvaient dans cette situation. Et puis de par le travail... Donc
mais vous-même, vous avez connu un état de coma ou pas déjà dans
moi,
votre
non.
Vie
non, 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 pas du tout.
Donc ce n'est pas l'expérience personnelle.
Absolument pas. C'est pour ça que je peux, si vous voulez, en parler avec un certain recul. Mm-hmm. Bien que, quand je dis un certain recul, disons que lorsque vous êtes anthropologue, que vous faites une soutenance de thèse à l'âge de 58 ans, vous avez peu de chances d'obtenir un laboratoire au CNRS. On vous dit, laissez la place aux jeunes. et de gagner votre vie en tant qu'anthropologue. Donc, j'ai gagné ma vie en étant assistante sociale d'entreprise.
Voilà. Oui, donc
vous... À partir de là, j'ai été amenée, parce que l'entreprise est une société dans la société, à côtoyer bien des personnes qui étaient dans le coma, des familles qui avaient un proche dans le coma, des enfants dans le coma, des morts, des maladies graves, etc., etc., etc.
Les recherches, vous allez en parler dans quelques temps, hein, mais j'en viens... Aussi un point précis, si on aborde d'autres questions dans l'actualité, on sait que l'euthanasie, par exemple, les questions d'euthanasie sont arrivées dans la société ou du moins dans les médias à travers des cas personnels. On pense à Vincent Humbert. Est-ce que pour le coma, on est dans la même situation avec des personnes qui ont servi d'exemple, si je puis dire, pour porter la cause auprès du grand public?
Alors justement, je vais faire référence aujourd'hui à un article qui a paru dans le Courrier international, qui, si cela intéresse vos auditeurs, ils peuvent se le procurer. C'est l'article qui date du 27 juillet 2006 et qui porte le numéro 821. Dans cet article, ils ont évoqué le cas d'un jeune américain qui s'appelle Terry Wallis et qui, à 19 ans, a eu un accident de mobylette, dont lequel il y a eu un trauma crânien très important avec destruction d'une partie du cerveau. Et il est resté pendant 19 ans dans le coma.
19 ans.
19 ans. Donc ce cas a été évoqué très longuement dans le Courrier international. Et un matin, il est sorti de ce coma, apparemment sans séquelles. On connaît d'autres cas de ce type.
Et il a repris une vie normale ?
Il a repris une vie normale. Seulement, ce qui s'est produit, c'est que les médecins, c'est-à-dire le docteur Nicolas Schiff, a eu l'intelligence, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de continuer à suivre le chemin de ce jeune et surtout de son cerveau. Parce qu'il disposait d'un outil qui s'appelle l'IRM fonctionnel du tenseur de diffusion, qui permet de visualiser le flux des molécules d'eau qui se trouvent dans le cerveau et à partir de là, de voir les neurones en activité.
Et qu'en a-t-il conclu de cette observation ?
C'est-à-dire qu'en faisant cette IRM du tenseur donc de diffusion, avec ce système qui permet de suivre le flux des molécules d'eau, ça permet en même temps, ça révèle les transformations qui se produisent dans des synapses. Donc, et de la matière blanche aussi, hein, les deux. Donc il y a des transformations qu'on peut à ce moment-là quantifier.
Synapse, matière blanche, définition.
Vous avez les neurones qui se sont reliés entre eux par des axones, qui sont des filaments et avec des pulsions électriques. Et donc, en même temps, le synapse fait partie de ce processus, ainsi que la matière blanche.
La matière blanche, c'est le cerveau.
Oui, on ne peut pas dire ça exactement.
Oui.
Donc, ce qu'il a pu mettre en évidence, c'est qu'il y avait dans ce cerveau des zones qui étaient détruites du fait de l'accident. Et lorsqu'ils ont fait ces tests, ils pensaient, il était déjà sorti du coma, hein, donc ils pensaient que cette activation de nouveaux axones allait se placer à l'endroit où les autres avaient été détruits. Pas du tout. Et là, ils ont été vraiment stupéfaits de constater que, au contraire, c'était des zones très particulières qui n'existent pas dans un cerveau sain, qui n'a pas été traumatisé et qui était à la base du cerveau, à côté du corps calleux, le corps calleux étant ce qui permet de mettre en communication les deux hémisphères du cerveau.
Alors autrement dit, si je vous suis bien, Daniel Vermeulen, l'accident de ce garçon, donc 18 ans dans le coma, 19 ans, il revient sain de son coma, il reprend une vie normale, fait des examens et les médecins s'aperçoivent que, contrairement à leur attente, la reconstruction du cerveau ne se fait pas de la même manière que celle qu'ils avaient prévue. Et donc, ils découvrent de nouvelles zones.
Absolument. Des zones qui n'existent pas dans aucun cerveau.
Dans aucun cerveau.
Dans aucun cerveau qui n'a pas été traumatisé.
Depuis quand le sait-on, ça ?
Alors, c'était donc...
Depuis quand a-t-on découvert ces zones ?
Alors, les enquêtes qui sont menées datent depuis... C'était en 84. Donc, quand il a eu sa première... son accident. Donc, vous rajoutez 20 ans. Disons que ça fait 94.
Donc on sait que le cerveau contient des zones qu'on ignorait avant.
Exactement.
Voilà. Mais ça, c'est le coma qui nous l'a appris.
Ça se passe aux États-Unis, pas en France. Et alors, ce qu'ils ont fait, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'ils ont fait ces IRM qu'ils ont complétées avec ce qu'on appelle des PET scans qui permettent de faire une tomographie donc des zones actives du cerveau.
Donc grosso modo, on prend en photo le cerveau.
Ça,
si
montre
résume,
les régions du cerveau qui sont actives.
C'est ça.
Donc on avait cette approche, d'une part de visualiser les nouveaux axones et d'autre part de voir quelles étaient les zones actives du cerveau.
Et là, donc, quelle conclusion ?
Alors là, je vous développerai ça un petit peu plus tard, si vous le permettez. Et ils ont fait les scanners à la sortie donc, du coma. Ils en avaient fait, évidemment, au moment où il a eu son accident. Ils en ont fait au bout de 2 mois et ils en ont fait un au bout de 18 mois. Et alors là, c'est pour terminer sur ce cas, ils se sont aperçus que non seulement ça se trouvait dans des zones du cerveau qui n'existaient pas chez les autres humains, mais qu'au fur et à mesure qu'il progressait dans la nouvelle insertion de vie, eh bien, il y avait certaines parties qui disparaissaient et d'autres qui se constituaient.
Qui s'activaient ou qui disparaissaient ?
Non, qui disparaissaient.
Du cerveau ?
Du cerveau. Et donc, on se trouve placé devant un schéma de plasticité du cerveau auquel on n'aurait jamais pu penser jusque-là. Et qui a été, pour les chercheurs, un étonnement
Alors évidemment,
important.
Il faut que vous expliquiez
donc,
une chose, Daniel
Pamelan. Donc ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Hein, il faut bien employer, je pense, des termes très précis. Sinon, vos auditeurs vont dire, mais elle raconte n'importe quoi.
Donc le cerveau, on s'aperçoit que le coma et la sortie du coma a révélé une plasticité du cerveau avec des zones qu'on ignorait, des zones qui s'activent ou qui disparaissent. Et cela, on l'ignorait.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, zone du cerveau ? Parce qu'en soi, c'est un petit peu abstrait, zone du cerveau.
Alors, nous allons y venir. Mais d'abord, je vais vous donner, si vous le permettez, pour qu'on soit bien cadré, la définition du Comité consultatif national d'éthique.
Pour le coma. D'accord. Bon, alors, j'allais y venir après, mais allez-y.
Oui, parce qu'il faut
qu'on reste... Non, mais bien sûr, allez-y.
Donc, il dit, le patient en état végétatif est un être humain à part entière. Il n'est ni mort, ni mourant. Ça n'est pas un déjà mort. Et c'est ce qu'il faut dire. Et redire, et notamment pour les familles qui, quand on leur annonce qu'un de leurs proches, à la suite d'un accident, est dans le coma, reçoivent ça comme si le ciel leur tombait sur la tête. Ils sont écrasés. Croyez-moi, là, j'en ai suffisamment l'expérience pour toutes les personnes que j'ai eu l'occasion donc, d'accompagner. Ils sont littéralement écrasés. Et ça, c'est monsieur tout le monde. Demain matin, ça peut vous arriver, ça m'arrivera à moi aussi. Nous aurons un proche qui va se trouver ainsi, et notamment du fait des accidents de la route chez les jeunes. Et donc, il faut le dire et le redire.
Le coma appartient à la vie.
Ce n'est pas un déjà mort, c'est un être vivant avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Et si on lui donne l'envie de vivre, il va peut-être sortir de son coma.
Le coma appartient donc à la vie, on est bien d'accord. La médecine n'en avait jamais douté.
Ah oui, mais on considérait qu'à partir du moment où il y avait des parties du cerveau qui étaient particulièrement abîmées, il y avait peu de chances que la personne en ressorte.
État végétatif, donc,
alors,
il y a plusieurs sortes de
comas. Vous avez plusieurs sortes de comas, mais si on veut faire court, on peut dire que il y a un coma dit végétatif où la personne est inconsciente, c'est-à-dire où elle ne bouge pas, où elle ne parle pas, où elle ne cligne peut-être pas des yeux selon l'intensité. Ou par contre, elle peut se nourrir ou plutôt être nourrie par des sondes. Tout dépend de l'importance du coma végétatif. Vous avez le...
Attendez, parce que vous pouvez être dans un coma végétatif et vous nourrir vous-même ?
Oui, vous en avez qui arrivent à avaler.
Ah oui. D'accord.
Ah non,
donc
non,
la fonction,
ah oui, la fonction de déglutition existe, mais bien entendu, il faut leur donner à manger.
Naturellement.
Non, attendez.
Oui, parce que
il
sinon,
faut qu'on se comprenne.
Oui. Incohérent. Donc premier stade.
Donc, vous avez ce premier stade. Vous avez le coma où le patient demeure en vie, mais avec une assistance médicale lourde. Et puis, vous avez le coma artificiel qui est provoqué médicalement, où on estime qu'il faut mettre cette personne en coma artificiel.
Donc trois stades.
Trois possibilités, je dirais.
Le coma profond, c'est synonyme de coma artificiel ?
Alors, en ce qui concerne le coma artificiel, c'est un peu, ça rejoint un petit peu, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais ça rejoint un peu l'état d'anesthésie. Mais il y a, dans ce cas-là, malgré tout, des possibilités de réaction au niveau du cerveau. Ça, c'est ce que Mélanie Molly, la neurobiologiste donc à Liège, a pu mettre en évidence.
Le cas dont vous avez parlé de l'Américain qui est resté 18 ans dans le coma.
Terry Wallis.
Voilà, Terry Wallis est resté 18 ans dans le coma profond ou bien il a oscillé entre différents stades de coma ? Alors, est-ce qu'on peut évoluer dans son coma ?
Je ne pourrais pas vous donner d'éléments sur ce sujet, étant donné que je n'ai pas eu le dossier en main, que je ne sais pas du tout comment les choses se sont déroulées. La seule chose que je puis vous dire, c'est que pendant 19 ans, donc, il est resté dans le coma et qu'il en est sorti. Voilà.
On en sort d'un coup ?
Là, il en est sorti d'un coup, oui. Oui, oui, il s'est mis à parler et il en est sorti d'un coup.
Alors,
donc,
c'était
en 2003.
C'est ça. En 2003 ?
Oui, en 2003.
En 2003, de quoi parlez-vous précisément ?
De sa sortie de coma.
De sa sortie du coma.
Oui, je cherchais la date tout à l'heure, je ne l'avais pas retrouvée.
Alors, il a repris une vie normale et...
Et ils disent qu'il s'est mis à parler dans les 3 jours qui ont suivi.
Donc très rapidement.
Très rapidement, alors que pour la plupart, moi j'ai eu notamment un ami qui a pris un AVC, une sortie de coma de 15
donc,
jours.
Accident vasculaire cérébral.
Oui, pardon. Qui, au bout de 15 jours, est sorti de son coma. Et a eu, malgré tout, des séquelles au niveau de l'élocution et a dû faire une rééducation. Là, ça n'est pas précisé. Ils disent que dans les 3 jours qui ont suivi, il a retrouvé et la faculté de se mouvoir et de communiquer.
Ça veut dire que...
Et puis surtout, ce qui l'a beaucoup choqué, c'est que 19 ans après, il n'était plus un adolescent. Donc, il a fallu qu'il s'accepte dans son nouveau corps, qu'il reconnaisse notamment sa petite sœur qui avait beaucoup grandi. Et qu'il accepte qu'ils disent avec beaucoup d'humour que Ronald Reagan n'était plus président des États-Unis.
Est-ce qu'il a écrit un livre ?
Je ne sais pas. Tous les éléments dont je dispose, je viens de vous les donner. Après, il faut interroger donc, le docteur qui a fait le suivi, qui s'appelle Nicolas Schiff et qui est à l'université Cornell de New York.
Alors, Daniel Vermeulen, ça veut dire que les séquelles après un coma ne sont pas proportionnelles à la durée que vous passez dans le coma. Du tout. Ce n'est pas parce que vous passez 19 ans dans le coma que vous allez être plus atteint que la personne qui y passe 15 jours.
C'est-à-dire que tout dépend aussi ce que l'équipe soignante va faire à ce patient. Parce qu'il est bien évident que, par exemple, moi, il m'est arrivé d'aller en service de réanimation et vous avez, et c'est très traumatisant pour la famille, quelqu'un qui a l'air complètement... Allez, disons le mot « mort », et à qui on a scotché les yeux parce qu'ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts s'ils ne sillent pas. Parce qu'à ce moment-là, le canal lacrymal ne fournit plus donc suffisamment de liquide et donc on est obligé de leur fermer les yeux, par exemple.
Ce qui est bien sûr très impressionnant.
C'est impressionnant quand l'entourage n'est pas informé. Disons tout de même que les soignants sont là et qu'ils font ce qu'il faut pour que les familles soient le moins traumatisées possible.
Daniel Vermeulen, on se retrouve dans quelques instants.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise ? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Regard croisé consacré au coma. Le coma, un état évidemment que tout le monde connaît comme ça in abstracto, mais en réalité, qui peut, d'une manière générale, avoir un avis vraiment argumenté sur le sujet et savoir surtout ce que l'homme et la société doivent faire face à un comateux. Alors, on est dans une logique ici que l'on a bien rappelée depuis le début, qui est celle que le coma appartient bien à la vie. Ce n'est pas un être déjà mort, c'est ce que vous nous avez dit, Daniel Vermeulen. Je rappelle que vous êtes anthropologue. Que vous n'êtes pas en soi du monde de la médecine, mais que c'est à travers les sciences humaines et votre connaissance de la sociologie que vous nous apportez ce regard sur l'état du coma et des dernières recherches. Parce que là, on va y venir. Vous êtes en capacité de nous faire part des dernières recherches du cyclotron, du centre de recherche de cyclotron de Liège. Alors, que peut-on apprendre sur le coma ? Que savons-nous qui pourrait nous éclairer ?
Alors, à la suite de ce que je viens d'évoquer du cas de Terry Wallis, qui était aux États-Unis.
19 ans dans le coma.
19 ans dans le coma. Donc, l'équipe qui est dirigée par Stéphane Lorès de l'Université de Liège, en collaboration avec Adrienne Hoven, qui est à Cambridge, a découvert que certains patients dans un état végétatif présentaient des schémas d'activité cérébrale, laissant à penser qu'ils comprenaient le langage. Mais plus que cela. Parce que contrairement aux patients dits sous anesthésie, qui n'ont aucune réaction possible, et là, je vais mettre une parenthèse, si vous le permettez, pour avoir travaillé depuis 20 ans sur les expériences que vivent les personnes en état de mort clinique et qui vivent des NDE, ce qu'on appelle les Near-Death Experience, et qui, lors d'anesthésie, disent qu'elles se sont décorporées, qu'elles ont vu ce qui se passait dans la salle d'opération, qui ont donné des détails extrêmement précis sur les échanges qui avaient lieu et en disant qu'elles étaient au plafond et qu'elles regardaient ce qui se passait en bas. On ne peut pas dire que la patiente qui est sous anesthésie n'a aucune réaction. Et j'en veux pour preuve les travaux du neurologiste Sam Parnia en Angleterre, qui actuellement travaille tout un protocole de recherche qui est en place sur ce qu'on appelle les OBE, c'est-à-dire les décorporations.
Mais alors, une précision, une personne sous anesthésie, là, dont vous citez le cas, qui a connu des expériences de voir son propre corps, le comateux est-il dans cette situation-là ?
C'est la question.
On ne le sait pas ?
Non.
Il n'y a eu aucun témoignage de comateux qui est là pour vous dire « moi, je me suis décorporé, j'ai vu... »
Alors, ils vont vous dire que... Ils ont entendu, ça c'est clair. Ils entendent ce qu'on leur dit, et ça on le sait depuis longtemps. On dit qu'il faut faire très attention lorsque l'on est au chevet d'un comateux, parce qu'il entend. Maintenant vous en avez d'autres qui vont vous dire, moi j'ai été dans le coma, je ne me souviens absolument de rien, c'est un trou.
On ne se souvient pas en général.
Là encore, la question est ouverte, parce que, en ce qui concerne ma propre recherche sur les NDE, j'ai eu l'occasion d'avoir deux témoignages, je dis bien deux. Donc il faudrait mettre en place un protocole de recherche rigoureux pour expérimenter ce genre de choses, où deux personnes qui ne se souvenaient absolument pas d'avoir vécu cette expérience, en ayant été mises sous hypnose, l'ont revécu. Donc, que se passe-t-il pour un comateux qui dit ne se souvenir de rien ? Je ne vous affirmerai ni dans un sens ni dans l'autre. Simplement, je dis, s'il y a des médecins qui nous écoutent aujourd'hui, je vous en prie, mettez un protocole de recherche sérieux en place pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces cerveaux.
Ce qui n'existe pas aujourd'hui.
À ma connaissance.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'entreprend pas de recherche.
Si, elles existent à Cambridge, elles existent à Oxford, elles existent à Liège, elles existent aux États-Unis. En France, je n'en sais rien.
Alors Liège, continuez sur ce que...
Donc Stéphane Lorès, qui est un homme charmant, m'a dit qu'il avait diagnostiqué un état de végétatif chez une patiente et que cette patiente, ils avaient eu l'idée non seulement de lui parler, mais de lui montrer des photos de sa famille et de ses amis. Et à ce moment-là, il faisait la fameuse IRM fonctionnelle du tenseur de diffusion. Et ils se sont aperçus à ce moment-là, qu'elle réagissait devant ces photos. Donc, elle les voyait.
C'est-à-dire que l'IRM peut observer, c'est-à-dire inscrire scientifiquement...
Je vous l'ai dit, tout à l'heure, quand nous avons défini l'IRM du tenseur de diffusion, que par le fait qu'on peut suivre le déplacement des molécules d'eau du cerveau, dans le cerveau, ça permet donc de voir les transformations des synapses et de la matière blanche.
Mais la vue, dans ce cas, ça veut dire que la vue...
Ça veut dire qu'elle a perçu ces photos. Alors, maintenant, comment les a-t-elle perçues ? Je suis incapable de vous le dire. En attendant, par rapport à cela, donc, 9 mois plus tard, elle a commencé à se rétablir et elle a fait des progrès incroyables. Donc, à partir de là, l'équipe s'est dit, il y a peut-être des choses à faire plus importantes. Et ils ont redoublé de stimulation, ils ont redoublé de prise en charge de cette personne.
Là, on en vient au cœur de votre démarche, c'est-à-dire...
Voilà. Et donc, je vais vous citer, si vous le permettez, avant d'en venir là... le cas évoqué par Mélanie Bolli, qui est très intéressant. Parce que Mélanie Bolli, qui poursuit d'ailleurs ses recherches, elle fait une étude très, très, très poussée sur une patiente en état végétatif qui était capable de s'imaginer jouer au tennis. Ça paraît fou. Alors, ce qu'elle a fait, elle a pris un groupe sain, c'est-à-dire de personnes non traumatisées. Elle leur a demandé d'imaginer, d'une part, de se balader dans une forêt et après de jouer au tennis. Et pendant ce temps-là, ils ont enregistré l'activité cérébrale, neuronale, pardon. Il faut bien employer les termes exacts. Et ils ont constaté certaines activités dans certaines zones. Et ensuite, ce qu'elle a fait, cette jeune femme avait 23 ans, elle avait de très graves lésions du cerveau après un accident de voiture. Elle était paralysée et elle présentait tous les critères qui permettaient de diagnostiquer un état végétatif. Ils ont fait la même chose avec elle, parce que c'était une personne dont ils savaient qu'elle jouait au tennis. Eh bien, en lui proposant de faire une partie de tennis, elle a activé exactement les mêmes zones que les autres.
Alors, de quelle façon lui a-t-on proposé, si elle était dans un état végétatif ?
Ils lui ont parlé.
En lui parlant, tout simplement.
Oui. Ils lui ont dit, imaginons que vous êtes en train de vous balader dans la forêt, imaginons que vous êtes en train de jouer au tennis. Et pendant ce temps-là, donc, avec l'IRM, ils enregistraient donc l'activité cérébrale.
Ça veut dire, Daniel Vermeulen, qu'on n'a pas de cas de coma où le comateux n'entend pas ?
Pourquoi voulez-vous qu'il n'entende pas ?
Peut-être que des sens, si le cerveau est atteint, certains sens pourraient être définitivement endommagés.
Non, parce qu'on croyait à un certain moment, parce qu'on connaît très peu de choses finalement sur le fonctionnement du cerveau, on croyait qu'il y avait des zones bien spécifiques. Mais maintenant, on sait que c'est l'ensemble du cerveau finalement qui va pouvoir réagir. Donc l'intérêt, c'est de stimuler la personne. Alors attention, attention. Je ne suis pas en train de dire que tous les comateux vont pouvoir sortir de leur coma, qu'il n'y ait pas de confusion. Et Stéphane Laurès le dit très clairement aussi. Il est extrêmement difficile d'établir un diagnostic rigoureux en ce qui concerne un comateux.
Mais parce que vous avez des cas de comateux qui sont sortis plus vite de leur coma grâce à la stimulation.
Alors là, il se pose la question, justement, par rapport à ce cas que je viens d'évoquer tout à l'heure. Est-ce que c'est le fait que l'équipe est énormément stimulée après cette personne qui a fait que cette femme, comme je vous le disais, est sortie de son coma au bout de 9 mois, ou est-ce qu'elle serait de toute façon...
On n'a pas le lien de cause à effet
aujourd'hui. Pour ça qu'il faut vraiment poursuivre les recherches, les développer, les prendre au sérieux, ne pas balayer ça d'un revers de main en disant « mais non, c'est de la fantaisie ». Non, il y a des choses à faire, il faut les faire. Parce que c'est trop grave vis-à-vis à la fois de la personne, à la fois des familles. Et il ne faut pas ni leur donner de faux espoirs, ni leur enlever tout espoir.
Avant ces recherches qui ont été menées par le centre de recherche du cyclotron à Liège, on ne savait pas tout cela ? Que savait-on du coma ?
On savait que les personnes entendaient.
Ça oui, depuis longtemps.
C'était depuis longtemps. Mais quand vous avez, je vais vous citer le cas d'un ami, donc celui qui a fait ce fameux AVC et qui en est sorti au bout de 15 jours. Je l'ai invité à dîner à la maison, bien après avoir fait sa rééducation, où il avait retrouvé en grande partie donc, une élocution normale. Et au cours du dîner, il me dit « À toi, je sais que je peux le dire. » Voyez à quel point le sujet est tabou. « À toi, je sais que je peux le dire. » Parce qu'il savait que je travaillais donc, sur les NDE.
Donc, rappelons NDE. Hein.
Near Death Experience.
En français, ce serait...
Expérience de mort imminente. J'aime pas beaucoup ce terme. Expérience proche de la mort. C'est expérience, ça. Enfin bref.
Il n'y a pas de titre officiel.
Non, il y a différentes... Moody a donné ce titre. Il a fait une analogie... Enfin... le terme m'échappe. Non, non. Il y a un terme bien précis qu'on utilise en sociaux, mais il m'échappe là.
Mais
maintenant.
Ce n'est pas la vie après la vie, hein. C'est bien non, la
non,
frontière.
Non, 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 oui. C'est une, si vous voulez, il y a un témoin qui me disait, c'est un sas.
C'est une bande
un
grise.
Un sas
hein.
Entre la vie et, le, si on, et la frontière ou au-delà de laquelle on est définitivement mort. On est dans un sas durant lequel on va vivre... quelque chose qui est insolite, qu'on l'on croit être insolite, mais qui finalement, quand en tant qu'anthropologue, vous l'étudiez sur de très longues distances et dans les cultures, vous vous apercevez que ça a toujours existé. Maintenant, on en parle davantage parce que les possibilités de réanimation sont beaucoup plus importantes qu'autrefois. Mais en fait, on en retrouve jusqu'au... Donc, dans, lorsque les chamans allaient dans les grottes... et déclencher un phénomène d'anoxie avec la torche qui mangeait l'oxygène et où ils étaient dans des camarins. Les camarins se sont dégoulés, hein. Notamment dans la grotte des Trois Frères. Vous avez un kilomètre dans des étroits goulets sur lesquels ils étaient obligés de ramper sur le dos avec une torche pour atteindre le monde d'en bas. Et là, ils vivaient des états modifiés de conscience, tels qu'on les
c'est
définit
ça.
Aujourd'hui.
Provoqués
par ce phénomène, entre autres, d'anoxie. Mais d'accord. Qui ne sont pas le propre de ces expériences où les personnes sont déclarées mortes cliniquement.
Alors cet ami
me dit, à toi, je peux dire cela. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, ben voilà, tu sais que j'ai été pendant 15 jours dans ce coma. Il dit, mais quand j'ai vu... Il ne m'a pas dit quand j'ai entendu, il m'a dit quand j'ai vu mon ex-compagne qu'il avait quittée et mon fils venir tous les jours à mon chevet et quand j'ai vu l'amour qu'il me portait, je me suis dit que je ne pouvais pas leur faire ça et je suis revenue.
Donc la volonté a prise sur le coma.
Il a trouvé une bonne raison de revenir. Et c'est ça, ce message que je veux faire passer aux familles. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas écrasés, ne prenez pas la fuite. C'est des moments uniques que vous avez encore la possibilité de vivre avec cette personne, de lui dire des choses que peut-être par pudeur vous n'avez jamais osé lui dire. Sachez qu'elle vous entend, sachez qu'elle peut échanger encore avec vous. Et je vais vous citer un autre cas qui est tout à fait récent, d'une famille qui a pris contact avec moi à la suite d'un coma provoqué par un accident de voiture. Cette personne était très gravement malade. Je ne donnerai pas de détails pour qu'on ne puisse pas faire de rapprochement. Cette personne était très gravement malade et elle savait qu'elle pouvait à tout moment mourir. Et elle avait bien prévenu sa famille. Elle leur avait dit surtout s'il m'arrive quoi que ce soit. Et elle savait qu'il était possible qu'elle ait ce genre d'accident où elle perd, avec une perte donc de connaissance et entrée dans le coma. Faites en sorte, je veux partir. Ne me retenez pas. Laissez-moi partir. Et donc cette famille, qui est très croyante, a joué le jeu, si je puis m'exprimer ainsi. Elle a fait cet accompagnement. Nous l'avons fait même par téléphone. Et à un moment donné, ils lui ont dit combien ils l'aimaient, mais ils lui ont dit aussi que si elle voulait s'en aller, même s'ils en étaient tristes, elle pouvait partir. Elle pouvait s'en aller. Ils lui ont dit tout ça, mais croyez-moi, ce n'est pas facile de s'exprimer. Hein. Croyez-moi, ça n'est pas facile. Bon, je vois le premier que j'ai vu, on est un petit peu, on a plutôt tendance à partir à reculons. Et son fils, à un moment donné, lui a dit, donc elle est restée comme cela dans une dizaine de jours, son fils à un moment donné lui a dit « Maman, je sais que tu m'entends, ou mère, je ne sais pas, je sais que tu m'entends, et si tu as la possibilité de me le montrer, j'en serai très heureux. » Et à ce moment-là, alors vous allez me dire, c'est sans doute un réflexe, ceux qui sont rationnels, elle a ouvert les yeux, elle les a refermés. Et quelques temps après, elle est partie.
D'accord. Alors, c'est justement la question que je voulais vous poser. Ça veut dire que quand on parle aux comateux, et pour donner en quelque sorte une espérance aux familles, certes, ils entendent. Est-ce que dans la plupart
ils
des
voient.
Cas, ils voient, est-ce qu'il y a le moyen d'échanger? Vous avez dit, on peut échanger.
Oui.
Est-ce qu'on peut échanger dans la plupart des cas? Est-ce qu'il y a une possibilité de réaction de la part de la personne qui est dans le coma?
Alors, il y a. Tout dépend, nous le disions au début, de l'intensité de ce coma végétatif.
Bien sûr.
Mais il est certain qu'il y a des réactions. Si on y est attentif, il y a des réactions.
Donc la plupart du temps, ce sont des clignements d'œil.
Pas forcément. Non, ça peut être si vous serrez la main.
Il serre la main plus fort, etc.
Oui, oui. Et ça peut être tout un tas de signes, un tremblement.
La tête qui bouge éventuellement.
Alors, par exemple, je vais vous citer le cas d'un autre, parce que moi, je travaille vraiment au ras des pâquerettes, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'agit donc d'une amie, sa fille, qui est une amie aussi. Elle était donc leucémie foudroyante et dans le coma, âgée de 80 ans, et sa fille était à son chevet. Eh bien, elle a fait un accompagnement tout au long de sa fin de vie, où vous n'êtes pas forcément dans le coma pour une fin de vie, mais vous pouvez l'être. Et là, il faut savoir encore qu'il y a des choses à faire, qu'on peut être en communion et que c'est un apport extraordinaire. J'emploie à dessein ces mots un peu énormes, je dirais, parce que c'est tellement vrai. Et après, pour faire le deuil, quand la personne s'en va, vous évacuez cet aspect de culpabilité qui existe dans la plupart du temps quand le deuil doit se faire.
À travers l'accompagnement.
À travers cet accompagnement que vous avez pu faire. Et là, justement, cette jeune femme a accompagné sa mère, lui a dit tout ce qu'elle avait à lui dire, y compris ce qui n'allait pas. Elle a mis une musique douce, elle l'a massée, elle lui a fait ce qu'on appelle du Reiki, c'est une sorte de magnétisme. Alors là, ne me demandez pas ce que c'est, ça n'est pas mon domaine, je n'y connais rien. Et cette personne est partie en paix. Elle est partie en paix et la jeune femme a vécu son deuil du mieux qu'elle le pouvait. Et par contre, le fils, qui lui était infirmier, n'a pas pu supporter et il a fui.
Deux réactions. Que l'on peut bien comprendre, cela dit.
Il n'y a aucun jugement à porter. Mais pour lui, le deuil, c'est moins bien fait que pour elle.
Daniel Vermeulen, vous restez avec nous. Encore beaucoup de questions qui se posent à ce sujet, au sujet du coma que nous abordons dans ce regard croisé.
Canal Académie vous propose de retracer les migrations des hommes préhistoriques. Comment et pourquoi les hommes fossiles sont-ils passés d'un continent à un autre ? À partir de quand parle-t-on d'hominidés et non plus de primates ? Réponse en compagnie d'Henri de Lumley, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie des sciences. Ce préhistorien mondialement connu nous livre un exposé passionnant dans notre émission Éclairage, émission en libre téléchargement sur Canal Académie.
Et de retour avec nous, Daniel Vermeulen, sur cette question qui est au cœur de notre regard croisé, la question du coma. On l'a bien dit, on le répète, ce n'est pas un être déjà mort, c'est un être qui appartient à la vie. Vous avez décrit les différents stades de coma, vous avez décrit aussi des cas qui nous permettent de mieux appréhender cette réalité. Les recherches, les travaux qui ne se déroulent pas en France, mais aux États-Unis, en Belgique, puisque vous nous parlez du centre de recherche du cyclotron, qui nous permettent de voir que des zones du cerveau sont activées lorsque l'on stimule, et c'est peut-être le mot que l'on retiendra, le mot stimulation, pour également que l'entourage ne désespère pas et comprenne bien que l'on peut aider une personne, ça reste encore l'état d'hypothèse, mais en tout cas, vous en avez peut-être la certitude.
Hypothèse.
Vous avez dit, on ne sait pas si elle sort du coma parce qu'elle a été stimulée.
Oui, absolument.
Voilà. Mais oui, oui. En tout cas, il y a des histoires et qui même sur le plan, moral ou du contact humain, le moment du coma est un moment privilégié par lequel on peut accompagner quelqu'un vers sa destinée et en même temps peut-être aussi c'est l'occasion de lui dire des choses tout simplement qu'on n'aurait pas voulu ou pu dire au moment où cette personne était dans un état conscient normal. Alors, je vous poserai quelques questions concernant la fin de vie et tout ce qui est autour des débats actuellement sur la fin de vie. Peut-on développer un aspect sur les recherches, parce qu'il n'y a pas de protocole de recherche aujourd'hui en France. Pourquoi ?
Je ne sais pas.
À première vue,
peut-être
qu'il
y en a-t-il, mais bon. Non, ce que je voudrais, si vous le permettez, faire une petite conclusion par rapport à ce que nous avons dit précédemment. Puis après, je répondrai à votre question.
Alors allez-y, sur les recherches.
Donc, Patrick Wilken de l'Université de Magdebourg dit « Nous avons peine à croire que de tels stimuli déclenchent une activité cérébrale sans passer par la conscience. » Toutefois, Stephen Lawrence garde la plus grande prudence. Il dit « Il ne faut pas accréditer l'idée que les patients dans un état végétatif puissent être conscients et que donc il ne faille jamais arrêter le traitement. »
Alors voilà, là on est dans la phase la plus difficile.
Oui, exactement. Certains patients vont réagir de façon sensorielle à la douleur et pourtant leur système nerveux n'est pas connecté au centre supérieur qui nous la font ressentir, a montré Lorès. Et cependant, Mélanie Bolli, dans ses dernières recherches, a montré que le comateux qui semble inconscient et ne pas souffrir, souffre. Pendant très longtemps, on a dit « le nourrisson ne souffre pas ». Ça n'est pas possible, il n'a pas les connexions nerveuses qui permettent de la... Et puis on s'est aperçu, malheureusement, que la douleur existait chez le nourrisson. Eh bien là, on a tenu à peu près le même langage. Et pourtant, le comateux souffre, il faut le savoir. Et ça, c'est les travaux de Mélanie Bolli qui l'ont mis en évidence.
Alors, deux choses quand même dans ce que vous avez dit. La première, c'est un, le comateux souffre. La seconde, au début, c'est important, c'est de savoir si ce qu'il perçoit arrive à sa conscience ou si c'est simplement une réaction.
Alors, ce que dit Lorès,
physique.
Il dit encore, parfois l'inutilité des soins, je le cite là, si vous permettez, je lis. Parfois l'inutilité des soins est une réalité et l'abandon du traitement est la solution la plus sage. Mais ce type d'étude va accroître nos connaissances et nous aider à déterminer quels patients sont dans la zone grise. Pourquoi ? Pourquoi ont-ils pu faire cela ? Parce qu'ils ne se sont pas contentés de faire une IRM au moment où la personne était dans le coma. Ils ont fait des IRM à différents stades. Et c'est là où ils se sont aperçus qu'il y avait des modifications dans l'activité cérébrale. Grâce à cette IRM fonctionnelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réévaluer, il le demande, de réévaluer périodiquement l'état neuronal des patients en état de coma. Alors, vous allez me dire, mais ça va coûter une fortune. Certes, ça va coûter de l'argent. Mais si ça permet de faire sortir du coma certaines personnes qui vont coûter une fortune en restant des années et des décennies dans le coma, vous croyez que le jeu n'en vaut pas la chandelle ?
Alors, cela dit, Daniel Vermeulen, les IRM successifs ne permettent pas de savoir si le comateux est vraiment conscient ou pas.
Non, c'est pas ça. C'est que ça montre quelles sont les activités neuronales qui sont activées, qui se transforment. Là, on est dans le cœur même du sujet, c'est-à-dire de la transformation.
Je peux vous avouer quelque chose. Naïvement, je pensais qu'on mesurait quand même périodiquement l'état cérébral du comateux pour savoir s'il allait sortir de son coma quand même.
Je peux vous dire que là, actuellement, il y en a un qui ça fait 16 ans qu'il est dans le coma. On n'a jamais regardé dans quel état se trouvait depuis son cerveau.
Donc on le laisse dans le coma indéfiniment, on se contente de le nourrir.
Il est à domicile, c'est sa mère qui s'en occupe, qui le nourrit, qui le lave. Et il y a un phénomène.
On peut rester
très
à domicile dans le coma.
Oui, encore une fois, ça dépend de l'intensité. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène de symbiose qui s'est fait entre cette mère et ce jeune, maintenant, qui est à la limite, si je ne veux pas employer un trop grand mot, mais à la limite du pathologique. Oui, parce qu'elle ne vit plus qu'au travers de cet enfant, puisque maintenant il a 32 ans. Mais c'est dramatique. C'est dramatique et au plan de la famille, et au plan de cette femme qui n'a plus de vie, ou c'est sa vie, parce que l'on sait très bien, par exemple, que lorsque vous avez eu un grand malade, qui a notamment d'un cancer, entre autres, qui a traîné pendant une fin de vie difficile, la personne ensuite, quand il est parti, se sent complètement vide. Elle n'a plus rien en elle. Elle est vide, elle est comme une coquille et il faut qu'elle se reconstruise. Et c'est pour ça que c'est tellement important que ces derniers instants de vie, même si la personne est dans le coma, on va parler de la fin de vie, eh bien, qu'il y ait cette richesse. C'est sûr qu'il n'y a pas de réponse. Mais si on est conscient que la personne qui est inconsciente vous entend et peut vous voir, à ce moment-là, c'est plus facile.
Mais alors, répondez-moi sur cette question. Est-ce qu'à l'hôpital, si vous êtes dans le coma, on mesure quand même votre activité cérébrale pour savoir si vous allez en sortir, s'il y a des évolutions, si des zones sont activées ou pas ?
Alors, il faut aller leur poser la question. Par contre, ce que je peux vous citer, c'est l'exemple d'une personne qui était âgée d'une trentaine d'années, qui, après avoir pris des somnifères, a eu un rejet gastrique au milieu de la nuit, qu'elle n'a pas pu donc évacuée parce qu'elle était trop endormie. Et donc, c'est passé dans les poumons. Cette personne a donc été hospitalisée dans un état catastrophique. Et l'équipe médicale, à l'époque, j'étais donc en activité, m'appelle pour me demander un bilan familial. en tant qu'assistante sociale. Donc j'ai donné ce bilan familial et il s'est avéré que c'était pas très brillant, qu'il y avait deux tout petits enfants et que le mari était entre guillemets absent. Donc la question s'était posée de savoir si de l'hôpital on allait ou non la transférer à l'hôpital Cochin. À l'époque, l'hôpital Cochin était le seul hôpital en France qui disposait d'un appareil qui permettait donc de réanimer des patients. Et on craignait qu'elle décède pendant le transfert. Et une fois arrivée à l'hôpital, la question s'est reposée. Est-ce qu'on allait, oui ou non, utiliser cet appareil qui était très lourd à utiliser puisqu'il fallait une équipe soignante 24 heures sur 24 pour qui se relayait au chevet de la patiente. Finalement, vu le contexte familial, la décision a été prise. Et cette femme, je l'ai suivie pendant 3 mois, pendant toutes les semaines. J'allais la voir, je lui parlais de ses enfants, je lui parlais de l'évolution qu'elle pouvait éventuellement avoir. Ça a duré 3 mois. Au bout de 3 mois, elle est sortie de son coma avec pour seule séquelle un genou bloqué. Parce qu'on sait qu'il faut, avec la kinésithérapie, mobiliser les membres, autrement tout se bloque. Or, j'ai eu l'occasion de parler avec le médecin qui gérait cette unité donc de réanimation. Et il m'avait fait part, à l'époque, ça remonte maintenant à pas mal d'années, il m'avait fait part de sa perplexité parce qu'il me disait « c'est bien beau de les ramener, mais finalement, quand on a des légumes, à quoi cela sert-il » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, c'est une question extrêmement délicate qu'on ne peut pas traiter à la serpe.
Alors, le problème, c'est de savoir s'ils vont vraiment ressortir en légumes ou pas. C'est ça, on ne le sait pas.
On ne le sait pas.
On en vient justement à cette question de la fin de vie, puisque je ne sais pas si vous faire le lien avec toutes les questions, mais on va essayer de rester le plus cadré possible sur l'histoire du coma. Mais on ne peut évidemment manquer d'évoquer la pression qui est exercée pour que l'euthanasie soit légalisée, comme c'est le cas dans d'autres pays en Europe. En quoi la question du coma vient-elle s'inviter dans ce débat, si on peut dire ? Est-ce que vous voudriez associer la question du coma à celle de la fin de vie ? Puisque dans quelle mesure faudrait-il légiférer sur la fin de vie ? Dans quelle mesure le coma, les questions et les nouvelles recherches peuvent-elles représenter une mise en garde sur la façon d'agir, de ne pas aller trop vite ?
L'ORES préconise, justement, c'est ce que je viens de vous dire.
Une sorte de moratoire ?
De refaire des examens périodiques. Et il dit à propos de Wallis, si au bout de 6 mois, on avait fait ce bilan, par IRM fonctionnel, eh bien on se serait aperçu, il le dit, qu'il n'était pas dans un état végétatif et on aurait pu le stimuler d'une autre façon. En ce qui concerne l'euthanasie, là je ne me hasarderai pas à émettre d'opinion. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'en ce qui concerne les NDE, vous avez un certain nombre de personnes qui sont décrétées mortes cliniquement, certificat médical à l'appui, c'est-à-dire arrêt cardiaque, respiratoire, électroencéphalogramme plat et PET plat, le scanner, quand ça a pu être fait, et qui pourtant ont une conscience qui leur fait vivre un épisode de vie qui pour eux va être le plus important, qui vont se ou non décorporer, ce n'est pas une obligation, qui vont passer dans un tunnel, ça n'est pas obligation, qui vont peut-être aller dans une lumière, ou non, c'est pas forcé, rencontrer un être de lumière. Enfin, vous avez tous les cas de figure. C'est pour ça qu'au bout de 20 ans de recherche, je ne vous dirai jamais c'est comme si c'est comme ça.
Oui, mais ça veut dire que c'est impossible de dire où finit la vie.
Alors là nous entrons dans...
Parce que la question de l'euthanasie, en fait, c'est ça. Oui, c'est de dire à partir de tel stade...
Et vous avez ces personnes qui, déclarées mortes cliniquement, vont brusquement revenir en disant « coucou, me voilà ». Bon, ça ne veut pas dire que... Attention, encore une fois, il faut être extrêmement prudent. Il ne faut pas dire qu'une personne qui a été décrétée morte, elle n'est pas morte. Il y a quand même des tests qui permettent, ne serait-ce que l'injection dans la carotide, qui montrent que le cerveau n'est plus du tout irrigué.
Donc, on sait précisément, il y a des procédures pour savoir si la personne est morte.
Oui. Ne m'enterrez pas vivant, c'est fini, ça.
C'est ça. Précision sur l'euthanasie, je parlais évidemment, il y a deux types d'euthanasie qu'on distingue habituellement, active avec l'injection mortelle, létale, et puis simplement l'euthanasie passive qui est un mauvais terme, qui est la fin de l'acharnement thérapeutique, qui est l'abandon des soins.
Oui.
Bon, Vous, comment vous vous situez par rapport à cette question d'abandon des soins, puisqu'on ne va pas parler de l'euthanasie active qui relève d'un autre débat.
Ah non, je ne m'y hasarde pas.
À partir de quand doit-on abandonner les soins, dès lors que vous êtes en train de nous dire que, dès lors que vous nous dites que, somme toute, c'est extrêmement délicat de manipuler cette question du coma, parce que ça
Mais
nous
vous avez les unités de soins palliatifs qui sont très bien formées pour ça, entre autres. Donc, ce qui compte, c'est si la personne, on sait que la personne, de toute façon, qui est atteinte d'un cancer en phase terminale, va finir, c'est de la soulager.
Alors, je ne parlais pas de la maladie en tant que telle, dans le cas d'un traumatisme, accident
oui,
de voiture.
Oui, mais j'ai bien compris. Mais en ce qui concerne l'accident de voiture, il est bien évident que pour arriver à faire, comme le disait Laurès, un diagnostic sérieux de coma végétatif, c'est extrêmement difficile. C'est clair que c'est difficile.
Donc la conclusion, c'est de continuer les soins.
Il faut essayer, dans la mesure du possible, de faire des IRM fonctionnels, j'insiste bien sur ce terme, fonctionnels du tenseur de diffusion, pour se rendre compte véritablement de la façon dont le cerveau est actif ou ne l'est pas. Et si, au bout d'un certain temps, refaire, au bout de 6 mois, par exemple, si ça dure 6 mois ou de 15 jours, pour voir s'il y a des transformations. C'est ça qui est important. Est-ce qu'on constate des transformations neuronales dans ce cerveau?
Merci beaucoup, Daniel Vermeulen. Je retiendrai 2 mots. Le mot stimulation pour l'entourage, la famille. Et
amour.
Amour. Nous restons des êtres humains. Et amour. C'est peut-être dans ces moments-là que les choses s'expriment.
Et trouver pour la personne une bonne raison pour revenir. Parce que si pendant ce temps-là, elle se décorpore, elle va se promener là où elle veut, comme il raconte dans les NDE, qu'elle revient, vous croyez qu'elle aura envie? Parce qu'il y en a certains qui vous le disent, je suis revenue parce que, pour faire plaisir, comme m'a dit mon ami, je suis revenue parce que quand j'ai vu l'amour qu'il me portait...
Mais c'est très beau parce que ça prouve que le sentiment humain, ce qui est le plus profond d'entre nous, agit sur notre physique, agit sur notre volonté, y compris lorsque le corps nous abandonne.
Complètement.
Donc c'est la puissance en fait de l'amour. Tout simplement. Donc le premier mot, c'est stimulation, vraiment pour garder l'espoir. Et le second, c'est l'idée d'avoir un protocole de recherche en France, des recherches en France, et l'idée de faire des IRM réguliers pour savoir...
Fonctionnels,
réguliers. Ça, ce serait une piste de recherche.
Oui.
Tout à fait.
Mais c'est très difficile dans un service hospitalier classique de faire ça, parce que ça suppose déjà d'avoir le matériel, d'une part, et puis d'autre part, d'avoir la possibilité de le faire d'une façon régulière.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Canal Académie, Daniel Vermeulen. Je rappelle que vous êtes docteur en anthropologie sociale et sociologie comparée, que vous avez suivi un cursus de philosophie hindouiste et bouddhiste, DEA d'anthropologie religieuse également, et une maîtrise de psychologie sociale. Merci de nous avoir éclairé sur cette question si délicate du coma pour ce regard croisé.
Vous venez d'entendre le premier volet de l'émission « Regard croisé sur le coma ». Pour que ce regard croisé soit complet, nous vous invitons à écouter également l'émission en compagnie de Jean-Roger Legal, ancien chef du service de réanimation de l'hôpital Saint-Louis.